Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, Graphite.net et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, les filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Bonjour madame.
J'attends un virement postal. Au nom de Jean-Claude Van Varenberg. C'est pas mon nom d'acting, Van Damme.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale sortie bouquin avec Bundesrat Holocaust, le nouvel opus de la collection Gore des Alpes signé Olive. Olive que vous retrouverez pour un entretien. Oka Hey de Neyef. Là, c'est une production du label 619 qui est édité chez Rue de Sèvres. Infidèle de Pornsack, Pichet Schott et Aaron Campbell, et ça c'est paru chez Urban Comics. Et on terminera avec Jean-Claude Van Damme et ses doubles David Da Silva, édité par Omake Books. Nous retrouverons David Da Silva pour échanger sur notre tataneur belge préféré dans la seconde partie de l'émission. L'équipe de Culture Prohibée remercie Dorian Sibilé et Philippe Battaglia pour leur aide sur cette émission. Cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut que vous pouvez vous procurer sur le site des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr ou directement chez l'éditeur theextasyoffilm.com. À mes côtés pour causer sortie de bouquin, je suis entouré de ma dream team habituelle, à savoir Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal, en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, créateur de À l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur en chef. Salut Thomas.
Salut GG, salut Damien, et bien évidemment, salut à toutes.
Mon cher Thomas, tant que tu as la parole, tu vas la garder, puisque tu es venu avec un ouvrage qui suinte bon, le sang chaud. Bon, même si en Suisse, il ne fait pas toujours chaud.
Ouais, mais à Culture Prohibée, on aime bien la Suisse. On aime bien les marmottes, être à l'heure et manger du bon chocolat. Dans les Alpes, évidemment. À tel point que nous en voulons en Gore. Oui, Gore des Alpes sévit toujours sous le dictat de Philippe Battaglia. Comme les lecteurs qui auront le courage de lire Bundesrat Holocaust jusqu'au bout pourront le constater dans son épilogue. Son auteur, Olive, qui a signé l'un des meilleurs opus de la série, Les Intoxiqués, offre sa vision de la fin du monde. Bundesrat Holocaust se présente comme une version beaucoup plus gore de La Route, le roman de Cormac McCarthy. Il est certain que le livre de Cormac McCarthy ne rigolait pas beaucoup avec son évocation post-apocalyptique du monde, mais là, Olive, en bon auteur à tendance punk, décide de défier le bon goût et la bien-pensance. Suite à l'explosion d'un volcan dormant aux États-Unis, la Terre est plongée dans une nuit perpétuelle créée par un nuage de cendres. Les ressources naturelles sont presque toutes détruites et il ne reste plus que ruines et désolation. Benjamin Zacht, un agent de contrôle des nombreux abris anti-atomiques de la Suisse, obèse et solitaire, est l'un des rares survivants de la catastrophe. Il traverse la Suisse donc, accompagné d'une vache, et oui une vache, en espérant trouver un refuge réputé réservé aux élites. Au fur et à mesure de son avancée, il va se persuader que des extraterrestres ont conclu un pacte avec les élites pour les sauver. Des extraterrestres, bien sûr, les reptiliens, forcément. Évidemment, c'est beaucoup plus gore que le roman de Cormac McCarthy, mais c'est aussi beaucoup plus drôle, Olive cultivant un goût certain pour l'outrance, les situations décalées et les théories complotistes qu'il pousse au maximum. Cependant, Bundesrat Holocaust n'est pas qu'un livre pour se marrer. Il décrit avec un certain réalisme ce qui nous attend, nous, pauvres êtres humains. Après quelques scènes de panique parmi les politiques, d'où le titre, Bundesrat voulant dire Conseil fédéral en allemand, où la violence se mêle au sexe, le roman emprunte une voie beaucoup moins rigolarde, même si une certaine désinvolture de ton continue d'apparaître, ça et là. Ce monde ravagé par l'homme et qui sert de décor, Olive le dépeint sans concession, reléguant toute tentative de communauté à la décadence, où l'individualisme prend le dessus sur le collectif, où les intérêts personnels trouvent encore manière à se manifester, même quand il n'y a plus rien à gagner. Au milieu de cette folie et de la description des personnages excentriques, de situations qui semblent sorties d'un film de Todd Browning, l'auteur montre comment un esprit solitaire et instable finit par sombrer dans la folie. Souvent drôle et décalé, Bundesrat Holocaust fait pourtant preuve d'un pessimisme inébranlable, s'impose comme une des œuvres les plus noires et dépressives de la collection, dont les écrits de plus en plus se soucient de l'écologie, renouant ainsi avec ces tendances du fantastique et de la science-fiction des années 70, qui pouvaient alors engendrer des romans comme Le Soleil Vert de Harry Harrison et son adaptation au cinéma par Richard Fleischer. Olive est un habitué de la collection, mais qui se cache donc derrière ce pseudonyme ? Un écrivain, un photographe, un dessinateur, un éditeur de bandes dessinées chez La Puce, hein, lapuce.ch/lapuce/, ou d'un fanzine intitulé « Debout les braves » et qui est voué à la scène punk.
Effectivement, je venais du milieu du fanzine, et puis c'est comme ça que j'ai pu rejoindre l'association La Puce, qui faisait aussi des fanzines à ce moment-là. Et puis avec le temps, on a commencé à se perfectionner, et puis on a commencé à sortir d'abord nos propres bandes dessinées, et puis après on a commencé à publier d'autres gens. Et puis petit à petit, on a commencé à s'étendre un peu partout dans les différents festivals et salons du livre, et puis c'est un peu par ces biais-là qu'on a pu... connaître d'autres éditeurs, dont nos camarades du Gord des Alpes.
Le réchauffement climatique hante de plus en plus les pages de la collection. Pour écrire Bundesrat Holocaust, avez-vous fait des recherches par rapport à la catastrophe que vous décrivez dans les premières pages ?
Oui, alors c'est un sujet qui m'a toujours pas mal intéressé, le côté fin du monde. Même si probablement je survivrai pas tellement plus longtemps que les autres à cause de mon confort citoyen, de citadin, je veux dire que je m'octroie. Mais j'ai fait pas mal de recherches. Ouais. J'ai lu quelques bouquins sur le sujet, surtout des manuels de survie, etc. J'ai essayé de glisser quelques petits tips à l'intérieur du livre sur des petits clins d'œil aux survivalistes qui se reconnaîtront. Et puis j'ai aussi regardé beaucoup de documentaires sur YouTube. Il y a énormément de matière sur le sujet. On voit que qu'effectivement, ça concerne beaucoup de gens.
Alors, depuis Les Intoxiqués et dans les deux nouvelles publiées dans les anthologies Ça sent le sapin et Gore de mer, on retrouve des motifs comme la critique des élites, avec un certain sens de la dérision et un humour désinvolte, avec un goût assumé pour le chaos, ce que confirme Bundesrat Holocaust. Serait-ce à dire qu'un pays qui a la réputation d'être réglé comme une horloge comme la Suisse abriterait des anarchistes ?
Ouais, ça doit être mon côté punk que j'arrive pas à cacher.
Que pouvez-vous nous dire de ces souterrains et ces abris qui sillonnent la Suisse ?
Ouais, ça c'est toujours assez marrant quand on a des amis qui viennent d'autres pays, notamment des Français. Ils hallucinent toujours sur ces histoires de galeries souterraines, etc., de montagnes qui s'ouvrent avec des pistes d'atterrissage pour avions, de chalets qui sont en fait des tanks déguisés et autres. Et effectivement, tout ça existe, quoi. Il y a des images de ça qui existent. Et puis moi, j'ai pas fait le service militaire parce que j'étais justement un sale punk dans ma jeunesse, mais je connais beaucoup de gens qui l'ont fait. Le service militaire est toujours obligatoire en Suisse, et beaucoup de gens ont eu l'occasion de visiter justement ces fameux réseaux de galeries et de bâtiments factices ou cachés. Et il y a un côté un peu mythologie suisse qui est assez intéressante.
Alors, en parlant de mythologie, justement, dans le bouquin, vous parlez beaucoup des théories complotistes. Comment vous êtes venu à vouloir leur tordre le cou ?
Ouais, c'est toujours assez marrant quand justement on cherche un peu sur ces forums de survivalistes. Il y a plusieurs profils types, quoi. On va dire qu'il y a le type qui a l'habitude d'aller faire ses week-ends dans la forêt, faire des tentes et puis pêcher du poisson. On va dire que ça c'est un peu le type pacifique. Et puis il y a la version du gars qui s'est construit son abri sous sa maison, qui a rempli ça de boîtes de conserve et de munitions, et puis qui attend à la fin du monde avec le fusil en bandoulière, quoi. Et puis souvent ce genre de personnes rejoignent pas mal des théories qui peut-être ne sont pas forcément infondées d'ailleurs, mais qui bon, voilà, débordent souvent sur des théories du complot plus ou moins rigolotes, quoi.
À la lecture de Bundesrat Holocaust, j'ai l'impression que le cinéma a aussi pas mal influencé le roman. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça?
Ouais, alors il y a quelques très bons films qui comment dire survolent le sujet ou bien qui sont complètement dans le sujet. Il y a bien sûr des films très très axés science-fiction comme Mad Max 2, etc. Mais il y a aussi des films un peu plus réalistes comme par exemple La Route, qui est un film extrêmement déprimant sur des survivants de la fin du monde. Et puis bien sûr ça a pu m'aider pour les images de ce bouquin, quoi. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui regarde extrêmement de films. Je suis plutôt un grand lecteur de bandes dessinées.
Alors justement, est-ce qu'il y a des bandes dessinées qui ont inspiré, qui ont aidé pour l'écriture de Bundesrat Holocaust?
Pas forcément, pas consciemment en tout cas. Moi, le premier truc que j'avais fait, c'est que j'avais acheté une grande carte de la Suisse et puis j'ai commencé à tracer le chemin que le personnage allait faire, puisque il se déplace un petit peu en voiture au début, mais après il se déplace que à pied, en plus accompagné d'une vache, ce qui est pas forcément très pratique dans un terrain fortement détruit. Et donc moi, je suis parti de l'histoire d'un voyage en fait. C'était déjà le point de vue que j'avais pris pour Les Intoxiqués, qui est un road trip. Alors là, pour le coup, ils sont en voiture, mais c'est souvent un peu l'axe que je prends, c'est de me dire voilà, le personnage il va d'un point A à un point B. Par quel moyen il s'y rend et de quelle façon il s'y prend, quoi.
Alors la collection Gore des Alpes, évidemment, tout est dans le titre, hein, c'est gore. Mais est-ce que, et puis ce roman va quand même assez loin, et est-ce que vous vous êtes censuré vous-même à des moments pour ce livre?
Non, alors justement, c'est assez marrant quand on bosse pour le Gore des Alpes. Ils ont plutôt tendance à insister sur le fait qu'il faut que ça éclabousse et puis que ça dégouline de partout, quoi. Donc il n'y a vraiment aucune censure et si possible, on est plutôt poussé au vice.
Alors pour conclure, quelle serait la bande originale idéale de Bundesrat Holocaust?
Ah, alors il y a la reprise de Je te survivrai de Opium du Peuple, qui est assez sympa, que je vous conseille. Et sinon, moi, j'écoute beaucoup de métal et il y a des ambiances qui pourraient bien coller au côté forêt brûlée et bâtiment en ruine.
Écoutez Culture Prohibée. Olive qui édite des BD, donc nous on a décidé avec mon ami Damien de rester dans la bande dessinée. Et je vais commencer par un album français, un album signé Neyef, un album qui s'appelle Hoka Hey, qui est donc un des travaux du label 619 publié chez Rue de Sèvres, et qui est tout simplement, pour moi, l'un des deux ou trois meilleurs albums de BD parus cette année. C'est une BD extraordinaire. C'est un western sur plus de 200 pages, une véritable épopée, une sorte de road movie avec des cow-boys, c'est magnifique, enfin, surtout avec des Indiens d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est l'histoire de George, qui est un jeune Lakota, dont le cri de guerre était Hoka Hey, qui pourrait se traduire par Let's go en avant, quoi. Voilà. Qui était un jeune Lakota, mais qui a été élevé, blanchi, en fait, par un pasteur. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait renier sa culture à ce petit Indien. Et le pasteur qui administre sa réserve a transformé ce jeune garçon acculturé, en tout cas vu comme tel, et lui a petit à petit imprimé l'idée que, fidèle au rêve américain, il allait devenir un docteur, enfin qu'il allait devenir quelqu'un d'autre, qu'il allait devenir ce que les Blancs voulaient qu'il devienne. Et il y a ce pasteur, on découvre d'ailleurs que c'est pas vraiment un type bien, déjà il fait des saloperies aux Indiens, mais on découvre qu'il abuse aussi de sa position pour coucher avec des jeunes femmes, on le comprend très vite dans l'ouvrage. Et ce pasteur
une jeune femme et Georges vont tout à coup être attaqués par un gang composé d'un Irlandais, d'une Indienne et d'un Indien. Un Indien qui s'appelle Little Knife et qui est en fait à la recherche du meurtrier de sa mère, qui n'est d'autre que son père d'ailleurs. Hein, c'est très, tout cela est très oedipien. Et donc il est accompagné d'une Indienne qui s'appelle No Moon, alors qui a la particularité d'avoir le nez coupé en fait. Elle est très belle, elle a été violentée par des hommes blancs et on lui a coupé le nez. Du coup, elle le masque continuellement derrière un foulard. Et puis le troisième larron de la bande, c'est un Irlandais qui est venu se perdre là, mais qui a, un peu qui est dans le même état d'esprit que ces deux Indiens. Et ils vont arracher Georges à la vie qui l'attendait, ce jeune Lakota, et ils vont l'emmener avec eux dans cette croisade dans laquelle ils pratiquent des menus larcins à l'encontre de... aussi de blancs peu recommandables, hein, voilà. Pendant ce temps-là, il y a un chasseur de primes qui va les poursuivre. Et donc ça va donner tout ça, toute une épopée à travers les États-Unis, un long périple, et qui, avec beaucoup d'intelligence, va traiter de thèmes très à la mode aujourd'hui, comme l'inclusion, comme cette idée de déterminisme. C'est presque un western déterministe, hein, d'ailleurs. Le final, d'ailleurs, est très parlant de ce côté-là. Et en tout cas, le thème de l'assimilation culturelle entre blancs et indiens est vraiment au centre de l'histoire. Et puis, en même temps, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec les thèmes philosophiques à la mode, vous aurez tout simplement un très bon western, un grand western dans la lignée des grands films d'Arthur Penn. Ça peut évoquer du Little Big Man, par exemple. Ça peut évoquer aussi, dans son côté parfois presque naturaliste, du Missouri Bricks. Voilà. Donc, c'est vraiment... une très très grande BD qui est signée de Neyev, qui a tout fait. Il l'a écrit, il l'a dessiné, il l'a colorisé. Donc c'est un travail titanesque. C'est quand même 224 pages, je crois, hein, cet album. Le tout dessiné dans un trait vraiment très précis, avec un gros travail sur la lumière, les jeux de lumière, sur les visages, sur les animaux, parce qu'il y a vraiment ce côté naturaliste. Il y a du souffle quoi, dans cette bande dessinée. Il y a tellement de souffle qu'on rêverait de voir un grand metteur en scène l'adapter au cinéma. Ça s'appelle Oka Ei. C'est paru chez Rue de Sèvres. C'est une production du label 619 et c'est signé Neyev. Et il faut absolument, absolument que vous puissiez lire cette BD qui est extraordinaire. Damien, mon ami, toi, tu es venu avec un comics. Un comics indé, un comics singulier, un comics vraiment passionnant.
Infidèle. Alors, Infidèle est fait par une très belle équipe. Déjà, Pornsak Pichet-Sott, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, qui est le scénariste et qui a beaucoup travaillé chez Vertigo, notamment sur Sandman, Swamp Thing ou Le Soldat Inconnu, mais également sur son Day Tripper. Ce qui signifie que l'horreur indé, ça le connaît bien. Il est accompagné pour le dessin par Aaron Campbell, qui lui a travaillé avec Garth Ennis, que Jérôme adore. Et pour la couleur, on retrouve José Villa Rubia, qui est habitué aux projets détonnants. Il a travaillé sur Sweet Tough de Jeff Lemire, auquel Pichet Shot était lié. Il a travaillé sur Batman Année 100 de Paul Pop ou encore sur Cage de Richard Corben. Donc on a une très belle équipe et ici Villarubia sert aussi d'éditeur. Alors le résumé de l'histoire est assez simple. Aisha, jeune musulmane, emménage dans un nouvel appartement. Ses nuits sont perturbées par des cauchemars terrifiants. Elle découvre cependant que les démons qui peuplent ses rêves ne sont pas le produit de son imagination, mais révèlent un mal plus grand, tapis dans les murs de cet immeuble, où un drame, un attentat, a eu lieu quelques mois plus tôt. À leur tour, les voisins d'Aisha se retrouvent victimes d'entités qui se nourrissent non pas de la peur, mais de la xénophobie. Alors, je suis un peu en retard pour parler de ce comics, parce que de base, il est sorti en octobre 2021. J'avais pas pu le lire à ce moment-là. Je voulais vous en parler pour Halloween, mais j'ai encore raté ce moment-là. Mais j'en profite de vous en parler maintenant, vu qu'il y a une série qui est en cours de préparation pour l'adapter. Et je me dis que ce serait bien que vous ayez les bases pour la connaître, et surtout qu'il n'est pas trop tard pour prendre ce comics. Alors, c'est un comics excellent. Quand j'ai commencé à le lire, j'avais quelques doutes sur le dessin, mais ça m'est rapidement passé. Je trouve qu'il joue à la perfection le côté maison hantée et peur de l'autre qu'il associe à la perfection. C'est renforcé par le passé de l'immeuble, notamment avec l'attaque terroriste qu'il y a eu, qui a été fait par l'un des voisins. C'est un comics qui, du coup, les habitants qui sont dans l'immeuble sont divisés par ça. Ça fracture la communauté entre ses amis qui pensent que Aisha est dans une mauvaise passe et ses voisins qui ne la connaissent peu, qui commencent à se dire « on a déjà eu un musulman dans l'immeuble, ça n'est pas très bien passé et Aisha se comporte assez bizarrement. » Du coup, c'est un immeuble dans lequel les préjugés font vite surface. Mais Aisha et une partie de ses voisins luttent pour leur survie contre une entité que la plupart ne comprennent pas, une entité assez anodine, parce qu'au final, ce fantôme qui les menace est une entité invisible qui ne s'en prend qu'aux minorités. Et j'adore ce comic justement sur ce point, parce que c'est une de ses particularités et sa plus grande force. C'est que c'est un comics qui parle de faire comprendre un sentiment à autrui et essayer de faire comprendre le racisme et le sexisme à des gens qui ne l'ont jamais subi et qui ne le subiront jamais, et par extension qui ne le voient pas forcément. C'est un comics qui essaye de donner de l'empathie et de la compréhension au lecteur, alors que la force invisible de la xénophobie détruit silencieusement une société.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, nah, can't nobody tell me nothing.
Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down
Rodeo. Vous écoutez Culture Prohibée spécial sortie bouquin. Nous allons terminer cette émission avec celui qui fut une star du cinéma d'action, on l'oublie un peu aujourd'hui, des années 90 et 2000 aussi, Jean-Claude Van Damme, et oui, notre Belge préféré, parce qu'il est l'objet d'un livre, Jean-Claude Van Damme et ses doubles, de Jean-Claude Van Varenberg à JCVD, un livre paru chez Omake Books et signé David Da Silva. Un livre dont nous allons tout de suite parler avec l'auteur David Da Silva en personne, donc David Da Silva qui est au micro de Culture Prohibée. Tu es souvent venu dans notre émission pour évoquer, entre autres, Sylvester Stallone. Tu as écrit Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière. Tu as consacré, on peut dire que c'est un livre de référence hein, que tu as écrit sur Stallone. Et tu débutes ce livre sur Jean-Claude Van Damme, donc un livre sur un autre musclé, on va dire, pour faire un parallèle, avec une histoire de storytelling autour de la carrière de Van Damme, de Stallone. Tu expliques qu'ils ont en fait beaucoup de points communs, y compris par rapport au cinéma reaganien, mais aussi par rapport aux rêves américains. C'est vraiment quelque chose, c'est marrant, qui inscrit du coup ce livre dans une sorte de continuité logique dans tes travaux.
Ouais, déjà merci pour l'invitation et puis pour le compliment au sujet de mon livre sur Stallone. Je commence par le storytelling sur Stallone et d'ailleurs j'ajoute aussi même Steven Seagal. Je dis que voilà, Stallone en fait c'est la matrice un petit peu qui a amené Seagal et Van Damme ensuite parce que en fait ce que m'ont dit beaucoup de réalisateurs, c'est que en fait Van Damme il voulait être le nouveau Stallone. Et j'ai l'impression qu'il s'est un peu inspiré de ce qui a fait rêver beaucoup de gens dans l'histoire de Stallone. Ça a été le côté le gars pauvre qui avait pas de contact à Hollywood, pas vraiment, etc. Et puis d'un seul coup, la providence ou le hasard l'amène à rencontrer un producteur qui lui offre un premier rôle. Et ce premier film fait de lui une star mondiale. Donc c'est ce qui est arrivé à Stallone avec Rocky. Et c'est ce que Van Damme a mis très souvent en avant comme storytelling au sujet de Bloodsport. Ce que moi, je conteste un petit peu dans le bouquin, parce qu'apparemment, bon, on voit qu'il y a 10 versions différentes sur comment il a obtenu Bloodsport. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il a pris ce côté-là de Stallone. C'est le gars qui avait un rêve, une passion pour le cinéma, qui n'avait pas trop de contacts, personne croyait en lui, et la providence fait de lui une star du jour au lendemain.
Dès la préface de Sheldon Lettich, qui a été scénariste de Bloodsport, qui a réalisé et scénarisé Full Contact, Double Impact, ce dernier te parle des doubles, du thème des doubles chez Jean-Claude Van Damme. Donc ton livre s'appelle Jean-Claude Van Damme et ses doubles. Cette omniprésence du thème du double, hein, qui trouve son apogée dans... Moi, je trouve en particulier dans trois films, hein, Double Impact, Time Cop et Réplicante de Ringo Lam. C'est ça qui t'a motivé, cette omniprésence du thème du double, pour écrire ce livre ?
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, c'était lors de la sortie de mon livre sur Stallone. Il y avait des lecteurs qui m'avaient dit « Ah, c'est vachement bien ce que tu as fait sur Stallone, mais tu devrais faire un peu la même chose avec Van Damme. » Et puis, moi, j'avais trouvé l'idée très intéressante. Parce que c'est vrai qu'en France, il n'y a pas vraiment de vrais bouquins d'analyse sur Van Damme, comme il n'y avait pas sur Stallone d'ailleurs, avant que je le fasse. Et je me suis dit, tiens, c'est très intéressant, je vais le faire. Mais je n'avais pas l'angle d'analyse pour étudier Van Damme. Comme j'avais trouvé l'angle, à mon avis, hein, pertinent pour Stallone, c'était le working class hero, le travailleur du quotidien. Et du coup, je me suis dit, comment je vais étudier Van Damme, quel va être l'angle d'analyse du livre. Et puis j'ai cherché, et puis après je me suis dit, c'est une évidence, c'est le double. Mais après, pourquoi ce thème du double chez lui, dans sa filmographie? Parce qu'il y a les trois films que tu as cités où c'est assez évident. Et puis après, on se rend compte que quand on creuse un petit peu, il y a souvent ce thème-là qui revient de manière peut-être moins évidente, mais qui est prégnant, c'est-à-dire Jusqu'à la mort, par exemple, où il incarne au début un policier drogué, corrompu, etc. Et qui, après un accident, le coma, il va se réveiller et il va devenir un autre homme, quoi. Donc c'est comme s'il y avait eu le double maléfique et ensuite il devient le double positif. Et j'ai trouvé cet angle très pertinent, parce qu'on finalement on retrouve dans toute sa filmographie, et on peut faire un lien aussi avec sa vie, le Van Damme du début qui était très sportif, très pur, ce que m'avait dit Franck Dux quand j'ai discuté avec lui. Il m'avait dit voilà, au début il était très très pur, Van Damme, c'est un sportif, il fumait pas, il buvait pas, etc. Et puis après il y a comme eu un autre double de Van Damme qui est intervenu à Hollywood, et là c'était totalement l'opposé, c'était le débauché, le drogué, l'alcoolique, etc. Donc moi je trouvais que c'était vraiment l'angle d'approche pertinent pour Van Damme.
Alors, tu viens de l'évoquer, hein, toi tu expliques la propension à développer le thème du double dans sa carrière pour Van Damme. Alors
comment dire, consciemment ou inconsciemment, à travers... Toi, tu donnes trois raisons à ça. Tu parles d'une raison commerciale, d'une raison artistique, mais aussi d'une raison psychologique. En fait, ces addictions sont clairement aussi ces addictions. Alors, on parle aussi de la cocaïne, toutes ces choses-là, mais ces addictions sont vraiment à l'origine. Alors, à la fois, je dirais, moi, d'un malentendu, parce qu'aujourd'hui on a tendance à voir Vandamme comme ce type un peu original, un peu défoncé, qui allait dire des trucs sur des plateaux de télé un peu hors sol, et en même temps cette addiction, comme tu le dis toi-même, eh bien c'est la double facette de Vandamme. Ça démontre son, comment dire, c'est son âme damnée, en fait, quoi.
Ouais, bah il y a un côté, tu sais, le pacte faustien, quoi, hein, c'est-à-dire le gars qui au début était très pur, mais qui avait ce rêve, et il va réaliser son rêve, la gloire, l'argent, etc. Mais la contrepartie, c'est qu'il va avoir une descente aux enfers qui va être assez dramatique pour lui, quoi, parce qu'il était vraiment au top à Hollywood au moment de Time Cop, à peu près. Il était vraiment au top à Hollywood. On pensait même qu'il allait peut-être franchir un palier et égaler un peu Stallone, Schwarzenegger. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ses addictions, son divorce, il se marie avec une autre femme, et puis là, en fait, ça l'entraîne vraiment dans une descente aux enfers qui est assez vertigineuse. Et puis voilà, quoi. Mais il y a une autre raison aussi, c'est parce qu'il est maniaco-dépressif aussi, Van Damme. Et ça peut aussi expliquer ses pics. Voilà, entre quelqu'un de très très souriant, très très jovial, et le côté dépressif, autodestructeur, quoi. Il y a cet aspect-là, et c'est quelque chose que j'avais aussi développé dans mon bouquin sur Mel Gibson. Parce que Mel Gibson aussi, il est maniaco-dépressif. Et puis j'avais analysé dans mon bouquin qu'il y avait ces pics-là aussi dans ses films. Et puis voilà, ça fait aussi un point commun avec le bouquin que j'avais écrit sur Mel Gibson, quoi. Donc il y a un peu de Stallone, un peu de Mel Gibson, je trouve, dans le bouquin sur Van Damme.
Et puis, il partage aussi avec ces deux stars que sont Stallone et Gibson, il partage aussi cette facette fragile un peu qu'il a livrée au public de sa personnalité qui le rend particulièrement attachant, parce qu'il est attachant, Van Damme, en fait, comme acteur.
Ah ouais, non, mais totalement. Je le trouve très touchant, très humain. Et puis, je pense que, d'ailleurs, c'est ce que je dis dans la conclusion, je pense que c'est ça qui fait que les gens... Ils ont continué à l'aimer, ses fans, etc., le public en général, parce que malgré ses frasques, malgré ses dérapages, il a un côté très touchant, très humain. On a l'impression que c'est notre voisin de palier qui a réussi à Hollywood, quoi. C'est ça, ce truc-là. Il a un franc-parler, il a une honnêteté qui fait défaut aujourd'hui à Hollywood, où tout est très aseptisé, très contrôlé, très politiquement correct. Bah lui, on a l'impression que voilà, il est sur un plateau comme il serait, en train de discuter avec des amis. Et je trouve que ça, c'est une facette de lui qui est vraiment touchante.
Écoutez David Da Silva, auteur de Jean-Claude Van Damme et ses doubles, édité par Omake Books, au micro de Culture Prohibée.
Sur ses débuts, tu disais tout à l'heure, il y a plusieurs versions que tu évoques dans le livre. À chaque fois, tu donnes plusieurs versions des faits. Est-ce que tu peux revenir sur le rôle? Parce que bon, moi, j'ai pu rencontrer Abdel Kissi dans un festival, mais qui est donc le frère de Mohamed Kissi. Il y a aussi un mystérieux homme d'affaires qui s'appelle Paul Van Damme. Est-ce que tu peux revenir sur le rôle de cet entourage sur l'accession alors peut-être au vedettariat de Jean-Claude Van Damme, parce que tout ce petit monde-là a joué quand même un rôle important autour du jeune Jean-Claude Van Varenberg.
Oui, bah ouais, c'est dans le bouquin, c'est au début. Moi j'ai fait un travail, j'essaie de faire un travail précis et sérieux. Alors au départ, j'étais un petit peu comme tout le monde. J'avais cette histoire-là du gars qui part à Hollywood avec son rêve, qui dort dans sa voiture, qui fait des petits boulots, et puis qui croise un peu par hasard à la sortie d'un restaurant un producteur. Et puis voilà, avec sa passion, il a réussi à le convaincre de lui confier un rôle. Donc pour moi, c'était un peu ça dans ma tête. Et puis donc j'ai fait un travail sérieux et j'ai fait beaucoup de documentation et je me suis rendu compte qu'au fil des ans, les versions étaient contradictoires en fait. C'était contradictoire. C'est une fois, il était parti dans le bureau du producteur, il avait fait le forcing pour le rencontrer. Une autre fois, c'est le producteur qui l'avait appelé pour lui donner rendez-vous. C'est contradictoire parce qu'une fois, c'est lui qui fait le forcing, donc il est le demandeur. Et une autre fois, dans une autre version, on l'appelle. Donc là, le demandeur devient le demandé, ce qui n'est pas tout à fait le même truc, quoi. Et donc, effectivement, selon les versions, alors Van Damme, il a toujours mis en avant, enfin, très souvent en tout cas, mis en avant son rôle un peu solitaire, c'est-à-dire qu'il croyait en son rêve et il a réussi, ce qui correspondait bien un petit peu à l'idéologie du self-made man américain. Mais en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a eu un entourage qui a été très très important. Et celui qui a été vraiment fondamental dans son parcours, du moins au début, c'est Mohamed Kissi, avec qui il a grandi en Belgique. Ils avaient les mêmes rêves, ils se côtoyaient énormément, ils allaient dormir les uns chez les autres. Et Van Damme appelait les parents de Kissi papa-maman, et vice-versa avec Mohamed Kissi, avec les parents de Van Damme. Donc ils étaient vraiment très très liés. Ils sont partis aux États-Unis, ils ont galéré ensemble. Et selon les versions, Mohamed Kissi, selon lui, il aurait été prépondérant pour convaincre Menahem Golan de la Canon pour que Jean-Claude obtienne le rôle de Bloodsport. Parce que c'est vrai que quand on y pense deux minutes, on se dit bien que quand même un producteur américain, surtout la Canon, qui était quand même connue pour être des pingres et des gens très calculateurs, ils n'avaient pas confié le premier rôle d'un film, même si c'était un budget assez modeste, d'environ $1 million, à un inconnu que le producteur croise à la sortie d'un restaurant et qui ensuite le voit dans son bureau et voit le gars pleurer et lui dit « Bon, ok, arrête de pleurer, je te donne le premier rôle. » Enfin, c'est vrai que quand on y réfléchit deux minutes, on se dit « Bon, voilà, c'est difficilement crédible, selon moi. » Alors après, il y a plusieurs détails qui font qu'en fait, on se rend compte qu'il y avait Van Damme, il avait déjà un second rôle dans Karate Tiger. C'était pas du tout un novice dans le cinéma. C'est-à-dire qu'il avait eu un second rôle dans un film qui avait bien marché au box-office américain. Et déjà, il crevait l'écran. Il a un temps de présence d'à peu près un quart d'heure dans Karate Tiger. Mais en fait, on retient quasiment que lui. Il est spectaculaire. Il fait déjà son grand écart entre les cordes du ring. Et moi, je pense, à mon avis, que c'est ce film-là qui a amené les producteurs de la Canon à lui proposer Bloodsport. Mais évidemment, ça fait un peu trop banal pour faire rêver à l'époque. Donc je pense qu'on a fait un peu de storytelling et puis on a amené une histoire un peu à la Stallone, quoi. C'est le gars sans sous, sans papier, et puis voilà, on lui a offert un rôle comme ça par la Providence. Enfin, moi je dis ça, c'est à mon avis, hein. À mon avis, après je sais pas. Il n'y a qu'eux qui savent réellement ce qui s'est passé.
C'est pour ça que tu as l'intelligence dans le livre, donc Jean-Claude Van Damme et ses doubles, hein, qui est paru chez Omake Books, de rappeler qu'il y a différentes versions. Tu préfères procéder de la forme. Tu le disais tout à l'heure, mais quand on fait le tour de la filmo en lisant ton livre, Alors, tu le rappelles bien dans le livre, y compris quand tu évoques ton enfance d'ailleurs, hein, à quel point, parce qu'on est de la même génération tous les deux, je suis peut-être un tout petit peu plus vieux que toi, mais à quel point Jean-Claude Van Damme, c'était une star internationale du film d'action. Moi, je me rappelle de copains, ça paraît aujourd'hui totalement délirant, qui s'entraînaient à frapper les poteaux électriques avec leur tibia pour durcir leur tibia de manière à être aussi fort que Jean-Claude Van Damme. Je me rappelle d'anecdotes comme ça. Parce que Jean-Claude Van Damme, tu le disais tout à l'heure, mais ça a été une star internationale. Enfin, d'ailleurs, la comparaison avec Seagal est intéressante parce qu'ils ont tous les deux connu une descente aux enfers. Mais Jean-Claude Van Damme, c'était une star.
Ouais, c'était une star. Alors, il y a la distinction. Tu citais Seagal. Ce qui est intéressant, c'est que Seagal, c'était quelqu'un qui marchait énormément sur le marché américain, au box-office américain. Il était très, très fort, beaucoup plus fort que Van Damme. Van Damme, il avait du mal. Il a eu beaucoup de mal à s'imposer sur le marché américain, on va dire, de façon vraiment sérieuse. C'est-à-dire qu'il dépassait rarement les 30 millions de dollars, ses films. Seagal, il approchait souvent les 50 millions. Par contre, à l'international, Van Damme, il était beaucoup plus connu que Seagal, bah, notamment en Europe. Je veux dire, en Europe, il n'y a pas eu de comparaison. Van Damme, c'était la star absolue, notamment en France. Je veux dire, à partir de Full Contact, Full Contact a fait plus d'un million d'entrées. Après, Double Impact a fait 1,7 million, je crois. Donc, il cartonnait vraiment. Et je pense que, pour refaire la comparaison avec Stallone, Stallone, il a amené beaucoup de gens à pratiquer la boxe, notamment des boxeurs professionnels, puisque moi j'avais écrit aussi un bouquin sur la boxe anglaise au cinéma, et je me souviens avoir remarqué qu'il y avait beaucoup de vrais boxeurs qui disaient en fait, celui qui m'a donné envie de faire de la boxe, en fait, il ne citait pas un vrai boxeur, il ne citait pas Mohamed Ali ou je sais pas quoi, Sugar Ray Leonard, il citait Rocky, il disait Stallone Rocky. C'est-à-dire que c'était le film qui avait impulsé comme ça une passion aux gens pour la boxe anglaise, et j'ai l'impression que Van Damme a fait la même chose à partir du début des années 90, mais plutôt avec le kickboxing ou la boxe thaïlandaise, quoi, avec Kickboxer, même Full Contact, et voilà, ça a amené les gens à vouloir l'imiter, à vouloir pratiquer ce sport, et oui, il y a eu une vraie Van Damme mania début des années 90, notamment en Europe, et beaucoup en France. Et ça a ressemblé un petit peu à la Stallone mania qu'il y avait eu à la fin des années 80, notamment période Rambo 3, où c'était vraiment quelqu'un, des acteurs qui étaient admirés par une grande partie du public, et notamment les jeunes hommes, quoi.
Et puis Jean-Claude Van Damme, c'est aussi John Woo, Chouark, Ringo Lam à Hollywood quand même, c'est pas rien.
Ouais. Bah ouais, mais après, ces films-là, ils n'ont pas forcément très, très, très bien marché, notamment ceux avec Chouark et Ringo Lam. Mais bon, c'est vrai qu'il a amené... il a amené, encore une fois, différentes versions, c'est pas trop... Van Damme, il a souvent dit que c'était lui qui était allé les chercher pour les amener à Hollywood. Puis il y a des versions qui disent que pas vraiment, quoi, en fait. Pas vraiment, c'est d'autres producteurs qui les ont amenés et qui les ont poussés à travailler avec Van Damme. Donc bon, chacun choisit sa version. Mais effectivement, il a amené des talents qui étaient méconnus en Occident, et il leur a permis de commencer leur carrière à Hollywood, et puis notamment John Woo, qui après a fait quand même des gros succès. Et il a été précurseur de la mode, finalement, de l'influence du cinéma de Hong Kong à Hollywood, qui a vraiment explosé avec Matrix. Mais on se rend compte que Van Damme était un peu précurseur de ce point de vue-là, quoi.
Pour conclure cet entretien, j'ai envie de revenir sur les... Parce que ce livre est émaillé de nombreux entretiens. J'ai envie de revenir sur les nombreux entretiens que tu as menés. Alors, on a parlé de Sheldon Lettich, il y a Peter Yams quand même, excusez du peu, il y a Peter McDonald, il y a Denis Chan, Damien Chapa, Paolo Tocha, des scénaristes, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de monde, des producteurs, tout ça. Qu'est-ce que tu tires, toi, de ces entretiens? Quels sont les entretiens qui t'ont le plus impressionné, qui t'ont le plus marqué? Et puis, j'ai envie de dire aussi, pourquoi, à la limite, alors est-ce que tu as essayé de le faire, mais pourquoi tu n'as pas non plus fait une interview de Jean-Claude Van Damme lui-même?
Alors, pour répondre dans l'ordre, j'ai beaucoup aimé tous les intervenants, hyper sympas, beaucoup d'anecdotes. C'est le gamin que j'ai au fond de moi qui avait ses 13 ans et qui regardait les films de Van Damme, il était... ébahi de parler après avec David Worth, Sheldon Lettich, etc. Puis je dirais que celui qui m'a vraiment touché, c'est peut-être Sheldon Lettich, parce qu'il était d'une très très grande gentillesse. Il m'a écrit la préface, il m'a envoyé des photos, de très très nombreuses photos, sans que je lui demande. Et voilà quoi, et vraiment quelqu'un de très cultivé en plus. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression que ça allait être un peu le réalisateur, un peu bourrin, machin. Pas du tout. En fait, il connaît très très bien le cinéma, il est très cinéphile. C'est vraiment quelqu'un de très intelligent et très touchant. Et voilà. Il y a deux réalisateurs qui ont essayé de me mettre en contact avec lui, mais il m'avait averti que Van Damme, en fait, c'est quelqu'un qui est très méfiant avec la presse et notamment les gens qu'il ne connaît pas. Et comme il a eu des problèmes en France, etc., il ne me connaissait pas. Voilà, je pense notamment à Dimitri Logothetis qui m'avait dit bah, « je vais lui parler de ton projet, etc. Je vais essayer de voir s'il peut discuter avec toi ». Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui est très fermé, il ne me connaît pas. Je pense qu'il aurait fallu le draguer pendant plusieurs, sans doute plusieurs mois pour qu'il me fasse confiance et qu'il m'accorde un entretien. Alors après, on avait discuté aussi avec mon éditeur et mon éditeur m'avait dit bah, « ça serait génial qu'on ait Van Damme dans le bouquin ». Le problème, c'est que s'il participe au bouquin, il voudra peut-être mettre aussi son nez dans le livre. Et c'est vrai que ça nous gênait un petit peu parce que même si le livre, il est quand même très très positif pour Jean-Claude, je veux dire à 90%, moi, j'ai essayé de faire un travail honnête et il y a aussi des aspects négatifs que je mets en avant parce que voilà, je ne voulais pas faire une hagiographie. Donc, on s'est dit, voilà, s'il participe au bouquin, sans doute il va dire j'ai un droit de regard et peut-être il aurait exigé qu'on enlève certaines choses. Voilà, donc, c'est le bon et le mauvais côté. Ça aurait été bien que Van Damme participe. C'est-à-dire qu'il adouble le livre et mon analyse, mais d'un autre côté, peut-être qu'il aurait empêché certains développements dans le livre qui, à mon sens, sont plutôt intéressants. Parce que ce qui est intéressant, c'est de mettre en avant les ambiguïtés d'un personnage, enfin, d'une grande personnalité publique, et pas juste faire une hagiographie où Van Damme est génial à chaque page, quoi.
Bah écoute, en tout cas, nous, on ne peut qu'inciter nos auditrices et auditeurs à se précipiter sur ce livre, Jean-Claude Van Damme et ses doubles, donc sous-titré de Jean-Claude Van Varenberg à JCVD, donc, qui est signé donc, David Da Silva, que l'on remercie, et qui est paru chez Omake Books. Merci beaucoup, David. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Keep it up.